Nous sommes réservés quelques instants pour des remarques ou questions au rapporteur de cette très riche matinée, dans l'ordre qui sera celui des questions ou des interventions, si vous le voulez bien. Oui, je vous en prie.
Combien de temps avons-nous pour poser des questions ? Il y en a trois, alors.
Écoutez, nous devrions, si on est vraiment à cheval sur l'horaire, avoir terminé à la demi, mais je pense que das akademische Viertelstündchen ist uns vergönnt. Donc, disons, une heure moins le quart, à peu près.
Tempérait, modérait ce que le texte aura d'horrible. Bien sûr, c'est l'inverse qui est très souvent le cas, puisque normalement on craint beaucoup plus une image qui est peut-être même quelconque. On en voit plus et c'est elles qui sont les premières soumises à censure. Alors je me demande s'il y a vraiment baume, si on ne veut pas penser que chacun dans leur régime qui est dissemblable.
Oui. Voulez-vous enchaîner peut-être avec les deux autres questions ?
Charles, je voudrais répondre aussi à en même temps, pour, c'est quand même assez fréquent dans les romans illustrés. Je vous ai montré la quelques gravures assez violentes de la bête humaine.
Bon, or, il y a une gravure. La gravure initiale de la bête humaine, bon, c'est une gravure récupérée de Bertal, hein, bon, qui est donc très antérieure aux autres, et qui représente un château, et on indique simplement, c'est là le château où Séverine a passé son enfance, le château des Grands Morins. Tu vois, bon, et il est évident que là aussi, c'est un quelque chose qui relève du paysage, mais qui est un élément narratif tout à fait, je dirais, relativement mineur, hein, et qui manifestement contrebalance la violence. Il y en a au moins deux ou trois gravures qui ont été introduites à l'intérieur même du texte. Je te donne là l'exemple de la bête humaine parce que c'est le premier, mais dans l'édition, c'est celui auquel je pense et sur lequel j'ai un peu travaillé, mais dans l'édition des variétures, c'est assez fréquemment, hein, et je crois que ça serait quelque chose d'important de voir quelles sont les illustrations euphoriques et les illustrations dysphoriques, hein, parce que je crois qu'il y a quand même manifestement un fonctionnement contrastif et contrasté de ces illustrations.
Merci. C'est la dame qui est là-bas. Oui. Oui. Alors, pour votre question suivante.
À mon voisin, j'étais évidemment comme toujours impressionné par les approches vastes que la thématique lui propose. Mais évidemment, il y a tout un pan qui manque encore. Je ne vais pas demander qu'il remonte comme ça. Quand même, parce que toutes les procédures, toutes les questions qui ont été évoquées devraient être encore élargies. Pour tout ce qui concerne la venue à l'image mentale que le texte propose ou propose dans le contre-champ, une illustration de toutes les façons offre en plus, de telle manière qu'on n'a pas simplement une opposition entre l'image illustrative et puis d'autre part un texte qui serait de l'écrit, mais d'autre part une image donc qui sourderait du texte sans qu'elle vienne bien sûr à la vue. Et ce n'est que par là, à mon sens, qu'on pourrait suivre son propos et imaginer, mais c'est un grand rêve, imaginer un système des contraintes et une théorie des contraintes qui nous permettrait de savoir ce que nous voyons et disons quand nous voyons ces œuvres. C'est un gros problème.
Je crois que c'est clairement là-dessus, je crois que le problème, je veux dire, a été esquissé, évoqué, mais peut-être également à la fois par moi-même, lorsque j'évoquais les manipulations cognitives et les problèmes de compétences et de performance, c'est-à-dire faire pouvoir voir, faire ne pas pouvoir ne pas voir, etc. Et ce voir-là, qui est relié à l'illustration, est à contraster, comme tu disais très bien, aussi avec le pouvoir de l'imaginaire, on pourrait dire suscité par le texte. Le pouvoir imaginant, imageant, on peut pas dire, pas suscité par le texte, donc on a aussi au moins un troisième terme dans la confrontation.
Dernière question.
Non, donnez la parole.
Ah pardon, excusez-moi. Oui? Un peu plus fort, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend mal. Oui.
Je pourrais poser une question à David Bagelier. Il a très bien fait remarquer justement qu'il y a les illustrations qui conditionnent les illustrateurs. J'ai pensé tout de suite comme lui au funérailles d'Atala. Est-ce qu'il y aurait pour l'établissement du texte au préalable la possibilité que les illustrations conditionnent l'auteur? Je pense notamment au tableau de Degas qu'on appelle communément l'absinthe. Et si je ne m'abuse pas, c'est antérieur à la sonore. Y aurait-il donc des possibilités que Zola est sensible à une impression visuelle comme celle-là? Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. Oui. Oui, madame.
Je n'aurais pas venu à celui des contraintes que j'ai en moi. Vous avez parlé des lignes droites, verticales, horizontales dans la lettre. Mais après, j'ai regardé d'autres tableaux, d'autres dessins. Il y avait beaucoup de lignes droites, beaucoup d'horizontaux dans les dessins pour les autres romans. Et je me suis demandé si ça faisait partie du genre. J'ai remarqué aussi quand je suis sur le personnage. Mais avec toujours l'arrière-fond, il y avait beaucoup de verticales et d'horizontaux. Donc, je me demande si ça fait partie plutôt du genre que seulement ce qui est de la bête de l'interprétateur avec le chemin des pailles.
Bon, si vous voulez, en fait, je crois que tout ce qui est quand même bon, intéressant sur le sujet est là. Bon, c'est quelque chose comme l'homologie pour Henri Terré, l'homologie qui est de l'Italie. Bon, oui, il est bien évident qu'il y a quand même une construction de l'espace textuel, hein, bon, qui est la ligne. Bon, voilà. Bon, et d'ailleurs, peut-être qu'on oublie complètement, par exemple, l'espace judiciaire dans la bête humaine qui existe. On l'occupe pratiquement complètement, même à la lecture, hein, on l'oublie complètement, mais on retient celui-là. Alors qu'il y ait quand même, bon, et que le rag soit quand même un des éléments communs, pratiquement, hein, de tous, et même renvoie à d'autres choses, me semble, bien sûr, mais de toute façon, des droites qui sont aussi, hein, des droites et des lignes circulaires ou semi-circulaires, on en a partout, hein, c'est fait de la ligne. Bon, qui me semble plus intéressant, c'est précisément c'est le rapprochement hein, d'un certain nombre de faits. Et pas le fait en soi dans une gravure, c'est que l'ensemble des gravures du même graveur est précisément, on recourt précisément au même type de procédé, à la fois dans l'ordre du référent plural et dans l'ordre de l'architecture du dessin, c'est-à-dire qui relève là non plus du référent, mais de la fracture.
Merci. Monsieur.
Il faudrait peut-être aussi parler des rapports entre les images et la tradition des images. Évidemment, ça sort un peu de notre colloque, mais justement, en revenant à cette question, la ligne droite, par une longue tradition, la série de longues droites, écrites par Voltaire et tant d'autres, par exemple, se retrouve, n'est-ce pas, c'est un exemple fameux, de chez Caparadis Friedrich Le Moine en face de la mer. Alors, la ligne droite de l'horizon représente l'infini. Tandis que chez vous, n'est-ce pas, dans votre roman, dans le roman Zola, et ça ne représente pas l'infini, mais ça représente le progrès et la progression rapide, n'est-ce pas, de l'écouter. Et un autre exemple, c'était à la fin de l'illustration, et c'était à mon avis une lithographie. Oui. N'était pas ça. Alors, à mon avis, ce n'était pas le même graveur.
Qui... Si pourtant la signature, je vais m'excuser, la signature est la même. Ah, il a travaillé sur. Bien sûr, ce n'était pas la même technique, mais la signature est la même.
Alors là aussi, on pourrait établir une tradition, n'est-ce pas, c'est-à-dire la chute vers l'enfer, qui n'est pas la chute de l'enfer chrétien, mais de la modernité, de la technique. N'est-ce pas? Alors ce serait donc une illustration, c'est la dernière que vous avez montrée, et sans doute la meilleure, c'était donc la gravure, l'œuvre, l'illustration la meilleure, qui est de meilleure qualité, qui est la meilleure interprétation. C'est pas parce que souvent on est quand même un peu dessus par le caractère très mauvais et des illustrations.
Oui. Oui.
Déterminer non seulement les contraintes pour les artistes, que le graveur n'est en général pas, donc ces éditions populaires pour la plupart, l'artiste lui-même, et qu'ensuite, chaque artiste, par une tradition qui est associée au médium qu'il emploie, est limité dans son inspiration. Par conséquent, il y a des conventions qui sont établies de la part de l'artiste et de la part du graveur lui-même par les contraintes techniques. C'est une dimension très très importante. On ne peut pas juger vraiment esthétiquement l'ensemble d'une édition, par exemple, si on n'est pas au courant des véritables détails de la technique de la campagne.
Est-ce que je dois comprendre que nous nous arrêtons là provisoirement? Alors, nous poursuivons cet après-midi à 14h30. Merci à tous les rapporteurs.